pas pour, pour dire que c'est le paradis des amours infantiles, c'est au contraire, on a dit, Lacan il emploie la formule, il a dit, un Baudelaire de Dieu qui s'en passe des pas vertes, le paradis des amours infantiles. Baudelaire de Dieu, il emploie l'expression comme ça, parce que c'est Baudelaire qui a parlé du paradis des amours infantiles. Je trouve que c'est escroqué. J'aime pas Baudelaire, je l'aime moins Baudelaire que les autres. Bon, donc voilà, la copule qui unit l'identique et le différent, Lacan il dit il faudrait faire la même chose que ça, mettre le 8 intérieur sur le tore, il faudrait mettre le trèfle sur le tore. Premier objectif, mettre le trèfle sur le tore. Alors je vous montre tout de suite, et il dit comme le trèfle c'est une bande de Mobius strip, je vais mettre la bande de Mobius strip sur le tore. Regardez, vous voyez, le son du 11 avril 78, vous avez la bande de Mobius et la bande de Mobius strip au début de la leçon. Vous voyez, c'est le moment de conclure, ça s'appelle 11 avril 1978. Hein, tout de suite, dans le moment de conclure et la topologie du temps, il va s'échiner, il en met après. Bon, il raconte des tas de trucs qui sont intéressants, mais qui ne sont pas directement liés forcément avec ça. Mais vous voyez que lui, ce qu'il fait pendant qu'il est en train de parler, en même temps, il est préoccupé par ça. Comment passer de la bande de Mobius simple à la bande de Mobius triple? Dans quel cas? Dans le cas où on passe du 8 intérieur, de la bande de Mobius simple à la bande de Mobius strict, mais lui, il veut le mettre sur le tore. Je vous montre ce que ça donne, c'est une catastrophe. Ah ouais, regardez, le nœud trèfle, il pense que c'est un tore. Il a raison, c'est un tore noué. Vous voyez, le nœud trèfle apparaît tout de suite avec la bande de Mobius strict. La leçon suivante, il coupe la bande de Mobius strict par le milieu. C'est comme la bande de Mobius simple, si je fais une coupure médiane, hop, ça se déploie, ça se réoriente. Bon. Alors il s'interroge là-dessus, qu'est-ce que ça donne? Bon, là, vous en avez des tonnes, hein. Regardez les dessins. Alors évidemment, vu comment ça a été composé par la personne qui a mis ça à jour, évidemment qu'il a établi le texte, évidemment, je comprends l'ami Pierre Bruno qui dit « J'ai essayé de lire la topologie et le temps, si on peut appeler ça lire ».
Ça, c'est le moment de conclure.
Ça, c'est le moment de conclure, mais la topologie du temps, ça continue. Hein. C'est pareil.
La topologie du temps, il fait appel à la droite.
Ah non, non, à la fin. Mais regardez, ça commence pareil. Regardez, ça commence pareil, la topologie du temps. Il n'en sort pas. Là, vous voyez, il a mis la coupure dans le nœud trèfle, la coupure de la bande de Mobius dans le nœud trèfle. Là, il essaye de mettre la bande de Mobius triple. C'est des dessins que Lacan a fait qui ont été plus ou moins bien reproduits, mais c'est vrai qu'il peine vachement et que nous, on n'y comprenait rien. On le voyait faire. Il voulait rien nous dire, bon ça je vous comprends. Regardez les dessins que ça donne. Et alors là, qu'est-ce que vous voyez? Il le met sur le tore. Alors il dessine la bande de Mobius et le tore en superposition, mais ça ne marche pas. Alors comment faire? Voilà. Lacan, pour mettre le trèfle sur le tore, voilà le problème qui nous est posé. Lacan, pour mettre le trèfle sur le tore, comme le trèfle, c'est le bord d'une bande de Mobius strip, il dit commençons par mettre la bande de Mobius strip sur le tore. Et on aura le trèfle sur le tore. Eh bien, là, Lacan, il a raté un truc parce qu'il avait dans ses archives, parce qu'il me les a donné, enfin, parmi les archives qu'il m'a donné, il y a un très beau texte de Terrasson, que Terrasson lui a écrit quand il était militaire, enfin, coopérant en Iran. C'était pas l'Iran actuel, c'était dans les 70, c'était avant Giscard, avant le Khomeini, c'était encore l'époque du Shah d'Iran. Et lui, pourquoi est-ce qu'il est allé en Iran faire son service militaire, Terrasson? C'est parce que Terrasson, c'est, en dehors du fait que c'est un génie, à mon avis, c'est un grand connaisseur de la théorie des surfaces. Lui et son ami qui s'appelait Françoise Gonod, qui cite Souris aussi dans ses écrits. Oui, parce que j'ai aussi amené les outils de Souris, parce que Souris et moi, on n'y comprenait rien, mais Souris, il a écrit des dessins. Toutes ces choses-là, c'est plus ou moins repris par Souris dans les différents volumes de ces... Bon, celui-là, c'est surtout celui consacré au dévoreur généralisé, donc c'est pas le bon. Est-ce qu'il y en a des traces? Non, pas tellement. C'est dans les livres qui précèdent. C'est le troisième volume. Bon, de toute façon, on va pas compliquer les choses avec Souris, parce que, de toute façon, on ne savait pas pourquoi Lacan fait ça. Parce qu'on n'avait pas lu... Forcément, ce n'était pas publié, on était trop jeunes, on n'a pas assisté au séminaire problèmes cruciaux ni aux suivants. Hein. Donc ce qui est marrant, c'est plutôt ceux qui ont suivi tous ces séminaires à l'école normale depuis 64, hein, et qui ont eu chaque année un morceau de cette transformation, hein, pour transformer ce tore avec un but intérieur en bande de Möbius. Je vais vous montrer comment on fait. Hein. Je ne vais pas vous montrer dans le cas du but intérieur, vous pourrez le faire. Moi, je vais vous le montrer dans le cas du trèfle. Hein. Je vais vous montrer que c'est exactement la même chose, que la seule difficulté sur laquelle Lacan a buté, c'est celle-ci, mettre le trèfle sur le tore. S'il avait réussi à mettre le trèfle sur le tore au lieu de répéter des tores, des bandes de Möbius triples, des trèfles, de les mettre ensemble, les superposer, et sachant pas où mettre les pointillés, où ça passe au-dessus, où ça passe en dessous, le pauvre vieux, il était terriblement seul, et il ne voulait pas, il était vraiment très têtu, hein, vraiment une tête de cabochard, il ne voulait absolument pas nous demander de l'aide et rien du tout. Hein. Quand on dit que Lacan, c'est sa secrétaire qui faisait les dessins, parce que c'est vrai qu'il a demandé des fois à Gloria, vous pouvez me recopier ce dessin, même une fois Gloria, elle m'a dit dans le cabinet, elle me dit, docteur, il veut que je recopie ce dessin, c'est un dessin de souris, il veut que je recopie ce dessin, vous ne voulez pas le faire pour moi. Alors souris, elle a dit non. Souris, elle a dit non, parce qu'il dit, moi, avec les bruits qui courent, avec toute cette espèce de saloperie de rumeur, enfin, on peut bien s'habituer à la rumeur, hein, mais on peut quand même dire que ça nécessite une éthique, la rumeur. C'est la signification, c'est formidable, la rumeur, c'est le mot d'esprit. On ne va pas critiquer, on ne va pas rejeter la signification et la rumeur, on n'est pas paranoïaque. Hein. Le paranoïaque, c'est celui qui ne supporte pas de ne pas savoir d'où vient tout ce qui est écrit. Que tout doit être écrit, service compris sur le ticket. Hein. Pas d'appréciation de la clientèle. Alors que la rumeur, c'est l'appréciation la plus large de la clientèle. Donc moi, je ne vais pas critiquer la rumeur, mais les sociologues et les psychologues, jamais ils arriveront à parler de la rumeur vacante, puisqu'il faut parler des incorporels et stoïciens. Hein, bon, et ça se trouve aussi dans Radiophonie. Bon, si ça vous intéresse, les incorporels et la rumeur, je trouve la signification, le dernier sens que lui donne Lacan, quand il oppose au sens, qui vient de la traduction, la rumeur, la signification, c'est un effet de la parole dans le discours en exercice. Il faut être dans le coup, il faut être dans la onda, comme disaient les Espagnols, il faut être branché, comme on dit chez nous. C'est un peu torture, hein, branché, c'est un peu l'électrochoc. Bon, donc, c'est un peu con d'appeler ça branché, il ne faut pas être branché, il faut être rentré. Il ne faut pas être branché, à mon avis, il faut être dans le coup. Alors évidemment, vous avez quelque chose de très désagréable qui s'appelle le snobisme. Pour certains, c'est désagréable, mais moi, je suis d'avis de Kogel et de Lacan, qui dit que Kogel méritait le prix Nobel. Joli compliment. Hein. Et pourquoi? Parce que Kogel, c'est celui qui a dit les Japonais, le peuple japonais, est le peuple le plus snob de la Terre. Ils ont refusé de rentrer dans l'industrialisation pendant 3 siècles. Ils sont rentrés avec une trahison énorme, Pearl Harbor, ils ont commis une traîtrise qu'ils ont payée très très cher, pas les militaires qui ont trahi les lois de la guerre, qui ont bombardé les Américains, ont déclaré la guerre au moment où ils commençaient à arriver sur l'objectif, comme on dit. Hein, et ça a valu à la population de Hiroshima et de Nagasaki de se faire dézinguer à coups de bombes atomiques. Bon, c'est la vengeance de l'armée américaine, parce que c'était même pas nécessaire stratégiquement, mais les militaires américains, comme toutes les bêtes, enfin comme tous les militaires, pardon, vous avez vu, les Américains, ils ont un blason, là, dans les communications du président, hein, dans la Maison Blanche, dans la presse, il y a toujours un aigle énorme. Hein, vous savez, hein, les militaires et les juristes, l'enjeu c'est terroriser l'adversaire, terroriser les bandes. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui on nous casse les oreilles avec une histoire de terrorisme. Et à force de vouloir terroriser les autres, au lieu de réfléchir un peu, parler, je ne sais pas. Je suis d'avis que le bras armé, la force physique, avec les fous, il n'y a pas autre chose à faire. Mais tout le monde n'est pas fou. Les fous, justement, on entretient la folie, on ne la définit pas, on ne lit pas à propos sur la causalité psychique de Lacan, on ne veut pas entendre parler de la folie, la belle âme, hein, qui est absolument intraitable, puisque vous ne pouvez pas rendre pas fou un fou, vous pouvez rendre un pas fou fou. C'est facile de rendre fou quelqu'un. Hein, il suffit de faire du management, du marketing, et puis pousser un peu dans le conditionnement et vous rendez les gens fous. Aujourd'hui, on sait scientifiquement, ils appellent ça scientifique, on peut rendre les gens fous, ça c'est très facile. Il n'y a qu'à essayer de penser pour eux, justement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller en analyse, ils ont raison. S'ils croient que l'analyse doit penser pour eux, ils ont raison de ne pas le faire, parce qu'ils considèrent que la psychanalyse, c'est devenir fou. Ils n'ont pas la notion d'analysant, ils ont la notion du mec qui va être pensé par un autre qui le surplombe. Alors ils ont raison, moi je leur dis, quand les fous viennent me voir, je leur dis, oui, vous avez raison, surtout, faites pas ça, venez plus me voir, parce que moi j'ai pas l'intention de penser pour vous. On ne sait jamais, vous savez, des fois que le type le croit, ou la dame. Donc, c'est très dangereux. Les fous, c'est dangereux, parce qu'il n'y a que la seule réponse, c'est la camisole. Bon. Mais ce n'est pas une raison de justifier toutes les malversations qui traînent derrière la camisole et la force physique, l'infirmier psychiatrique ou le flic. Ce n'est pas une raison de favoriser ça, si on sait de quoi il s'agit, quand il s'agit de folie. Au lieu de rendre les gens fous, comme l'emploi, par exemple, rend les gens fous, le fait d'être employé, le salariat, le marché du travail, le capitalisme, c'est quand même un truc qui rend fou. Puisque vous êtes dépossédé même du produit de ce que vous faites. Non seulement vos heures sont comptées, hein, 8 heures par jour, 40 heures par semaine, maintenant, progrès, c'est 35, oui, mais il paraît qu'ils veulent, ils sont toujours en train d'essayer de les réactiver, de récupérer, de grignoter, puisque Madame Aubry, c'est une grande marxiste, elle a lu dans Marx que réduire le temps légal de travail, c'est toujours un progrès social. Donc là, il jouait sur du velours. Les autres, ils sont acharnés contre. Bon. Et le point surtout, c'est que le salariat, ça rend fou, parce que ça dépossède même le sujet du produit de son travail. Et donc, il n'a pas de responsabilité, donc il est fou. Parce que la non-folie, c'est être engagé, responsable, d'une manière pas partisane, mais d'une manière effective, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Ça commence par la parole. Hein. Et donc, moi, je me considère toujours comme responsable des éventuelles conneries que je pourrais vous dire, et donc je fais un peu attention, parce que je pense qu'il faut s'engager dans ce qu'on dit. Et quand je dis quelque chose, même qui peut paraître bizarre ou pas très sympathique, ben, si je le dis, je le dis. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas, vous voyez comme on fait aujourd'hui, on met des guillemets. Vous allez, on dit, monsieur un tel est un con, entre guillemets. C'est une horreur, c'est un truc de fou. Hein, faut pas mettre des guillemets, il faut dire, monsieur un tel est un con. Vous voyez, hein, l'emplâtré, l'enfariné est un connard. Bon, vous voyez, moi je le dis. Et je le maintiens. Bon, je ne vais pas mettre entre guillemets, c'est comme si je ne l'avais pas dit, vous voyez, c'est une citation. C'est quand même infernal. C'est cette lâcheté, c'est des trucs de fou. Et je vous donne un exemple de réaction thérapeutique négative, pourquoi Freud est encore à l'heure du jour. Réaction thérapeutique négative de masse, puisqu'on en est au crime par un réac de masse depuis les années 40, on a aussi des réactions thérapeutiques négatives de masse. Vous voyez, par exemple, quand il y a eu le tsunami dans l'océan Indien, vous avez vu, les Européens qui vont en vacances sous les cocotiers au mois de février, comme dans Pinocchio, hein, où on leur dit « allez, hop, c'est la fête ». Allez-y, cassez tout, vous allez voir, on leur dit pas que le nez va pousser, que les oreilles vont pousser, mais allez-y, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jour où ils apprennent qu'il y a une catastrophe, avec plein de victimes, dans l'endroit où ils vont en vacances, hein, c'est plus Tahiti maintenant, c'est les côtes de l'océan Indien, au mois de février, vous avez vu le temps qu'il fait? Il fait beaucoup plus beau là-bas. À Buenos Aires aussi, hein, il fait beau, c'est chaud, on va moins à Buenos Aires, parce qu'il n'y a pas le sexe, il n'y a pas le même érotisme. Toujours, c'est des catholiques surtout. Ah oui, il y a le tango, c'est certain. Il y a des gens qui viennent quand même hein, en cette saison à Buenos Aires, mais pas beaucoup. Hein, je vais faire un peu de publicité. Bon, toujours est-il que donc les organisations non gouvernementales, hein, c'est ça, ONG, ils disent dans le journal, hein, ils étaient là à recevoir plein de pognon, des millions, et ils ont été obligés de dire aux gens, aux employés d'Europe, là, du Nord, et du Sud, arrêtez, on peut rien faire de cet argent. Vous voyez, c'est exactement ce que dit Freud. Hein. Pas d'analyse et même plus de transfert. Quand le transfert s'amortit, on n'est même plus délirant. Qu'est-ce qui reste? La culpabilité et on n'a plus qu'une chose à faire, c'est en tant que fou, c'est payer pour se déculpabiliser. Parce que que le non-engagement, il n'y a rien de plus producteur de surmoi. La folie, c'est la raison du surmoi. Lacan ne le dit pas comme ça, mais moi je vous propose cette formule parce que lisez les propos sur la causalité psychique, lisez ce que Lacan écrit sur le misanthrope, et voyez la différence qu'il propose entre la causalité psychique et la folie. Hein, je suis bien d'accord qu'il a fait un chapitre sur la causalité, sur Descartes et Freud pour se moquer d'Henri. Alors tout de suite, ça décourage tout le monde. Ça décourage pas Madame Boudinesco parce qu'elle elle lit que ce chapitre-là et elle n'arrive pas à le commenter. Bon. Dans un texte qui s'appelle Foucault 20 ans après, hein, qui est paru chez Galilée. C'est intéressant, un colloque où il y avait Canguilhem qui était encore là, qui a posé des questions de santé. Hein. Il dit même les psychanalystes ne répondent pas. Il dit le problème, c'est pas seulement de ne pas nuire. Hein, Canguilhem lui pose la question, qu'est-ce qui se passe là? Et il reprend la formule de Foucault qui dit que Freud n'a fait que restaurer le prestige oraculaire du médecin. Ça, c'est si on prend la vieille sous l'aspect de l'interprétation libératrice, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire, là, où l'anamnèse et la réaction, c'est même pas ça, la tragédie. Bon. Toujours est-il que Canguilhem il pose de très bonnes questions et les analystes ne répondent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables. Parce qu'ils ne lisent pas à propos sur la causalité psychique, puisque c'est un texte au psychiatre. C'est royaumont organisé par Henri. Hein, et Lacan commence par faire un pied de nez à Henri, qui est un vieux copain, il est toujours resté ami avec lui. Et là, il se moque de lui gentiment en disant cette chose, il lui dit, Descartes, eh ben, il est plus favorable à ma théorie que vous qualifiez de métaphysique, hein, elle est plus favorable à ma théorie que à votre organodynamique. Oui. Bon, Henri, il est comme tous les Français, il se croit cartésien, mais il n'a pas lu Descartes. Il n'a pas lu que Descartes, il dit pas seulement... Il n'est pas positiviste, Descartes, pas du tout. Il dit, si j'enlève tout, il n'y a que je pense. Et puis là, tout à coup, il produit une phrase extraordinaire qu'on n'aura jamais le temps de commenter et de méditer suffisamment. Il ajoute à ce je pense, il ajoute un hein, eh ben, je pense donc je suis. Donc on oublie toujours la première partie. C'est vrai dans les métaphysiques, dans la métaphysique, les méditations métaphysiques. Hein. J'existe, donc je pense donc j'existe. Hein, ça a une structure, ça a la structure de la phrase de Tarski sur la vérité. La neige est blanche, est vraie si et seulement si la neige est blanche. Je pense si et seulement si, je pense donc je suis. Comme dit Lacan dans le séminaire des fondements de la psychanalyse, un jour il faudra se rendre compte du caractère paradoxal du cogito. Pourquoi ? Si je pense, ça devient je pense donc je suis. Hein, ben moi je vous propose comme solution de voir que c'est une structure nécessaire du langage. Que ça s'appelle même la fonction phallique, puisque les enfants le disent, quand ils disent ma mère a un fait pipi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ma mère égale ma mère a un fait pipi. Comme Descartes, je pense égale je pense donc je suis. Le je suis, c'est le fait pipi. L'être, la conscience, c'est phallus. C'est la fonction. Les enfants ne sont pas des crétins. Ils ne disent pas ma mère a un organe parce qu'elle est. Bon, bien sûr, ils ont aperçu que c'était une puissance, que c'était un impératif, que c'était une autorité, la parole. Mais leur mère parle, donc ils disent, avant même d'avoir dans le narcissisme mis les organes génitaux en position d'éléments pour faire une dimension mystérieuse dans 3, pas 2, hein, et bien, les enfants, ils ont vu que déjà dans la parole, c'est quelque chose qui est comme ça. C'est que ma mère, du fait qu'elle n'est pas un animal, elle parle, et donc ma mère égale ma mère parle. Bon. Et ils disent ça de leur mère, de leur père et de tout le monde. Bon. Alors ensuite, dans le narcissisme, c'est lié aux éléments en pointe, cette dimension de la parole, cette dimension de l'autorité, cette dimension. Bon. Mais vous voyez que Descartes le dit comme ça. Benveniste, il le dit autrement. Il parle des pronoms personnels. Hein, parce que vous avez la même structure pour les pronoms personnels, la DX6. Hein, ici, là-bas, c'est toujours lié à l'énonciation. Hein. Donc, comment le dit Benveniste ? Il dit « je » égale hein, le sujet de la phrase qui contient « je ». Ah tiens, qu'est-ce que c'est que « je pense » hein, ?« Je pense, donc je suis ». voyez, c'est je pense pris dans la fonction être. Bon. Je, hein, le pronom personnel de la première personne, je, ça désigne qui ? Égal, je, c'est le sujet de celui qui prononce la phrase qui contient je. Pof, vous avez deux fois je. Ben voilà, vous êtes déjà en prise avec cette histoire de répétition ou d'involution signifiante, vous voyez. Unir la copule qui unit l'identique avec le différent, c'est quoi ? C'est quelque chose qui s'écrit comme ça. Hein. C'est quelque chose qui s'écrit, la fonction identité en mathématiques, la formule la plus simple et la plus imparable, c'est celle-là. I de x égale x. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire « je pense donc je suis » ou « ma mère, elle a un pénis hein? ».« La neige est blanche est vrai égale la neige est blanche ». Ça, c'est Tarski. Frege, il dit « ça sert à rien de dire qu'une phrase est vraie parce que ça ajoute rien à la vérité de cette phrase ». C'est la définition du prédicat de vérité de Tarski, mais déjà Frege l'avait vu. Ça sert à rien de dire quelque chose est vrai. Vous savez, quand on vous fait de la pub, on vous dit « vu à la télé, lu dans le journal », toutes ces choses. Hein. C'est pour essayer de vous balancer l'autorité phallique dans la gueule et vous obliger à obéir. C'est la fonction de la parole, c'est la fonction de l'énonciation. La déixis, qu'est-ce que c'est ? C'est ici, là-bas. Qu'est-ce que c'est ici ? C'est le lieu où se trouve celui qui dit ici. Et quand je vais aller là-bas, hein, ici sera là-bas et ici ce sera là-bas. Vous voyez ? Et là-bas, ce sera devenu ici, quand je serai là-bas. Mais pour l'instant, je suis là, donc c'est ici. Je suis, c'est ici, ça s'appelle ici. Lieu dit, ici. Mais vous voyez bien que ce n'est pas un nom propre. Il n'y a pas un panneau fixe. Bon. Et donc, c'est constant dans le langage, cette histoire d'involution. Hein? Et ça définit la phase phallique et la castration. Parce que vous remarquerez que cette formule, elle dit, hein, voyez, I de X, il a un zizi, mais c'est exactement pareil que s'il n'en avait pas. C'est pas une menace, c'est de dire c'est fondamental mais ça sert à rien. C'est quand même incroyable comme truc. C'est un truc de logique. Moi c'est grâce à la logique. C'est grâce à la logique que je m'en suis aperçu, mais c'est aussi grâce à la note qui se trouve dans l'édition des PUF des Saints de psychanalyse, page 92, dans l'analyse de Hans, où Freud, voilà comment Freud nous l'indique, lui-même qui se bat avec ça, hein, parce qu'il est. Il ne comprend pas pourquoi Wundt lui dit que l'inconscient, ce n'est pas possible. Parce que si le psychisme est conscient égale le psychisme, c'est ce que dit Wundt, hein, il répète Locke, c'est ce que dit la philosophie. Hein. Le psychisme est conscient, c'est le psychisme. C'est encore la même structure. Le psychisme est conscient égale le psychisme. Le psychisme est nécessairement conscient. Si vous dites psychisme inconscient, le psychisme est inconscient, alors c'est le non-psychisme. Parce que le non-conscient égale le non-psychisme. Vous devez mettre une négation des deux côtés. C'est ce que dit Wundt. Et Freud, il est scandalisé par ça. Il dit, mais dès la trame de Doom, il en parle. Hein. Il en reparle ensuite dans la métapsychologie, hein, l'article sur l'inconscient et sur le refoulement. Et puis, il en reparle dans l'abstract, mais ça, la feuille, il a retiré du texte tout le paragraphe qu'il consacre à ça, découragé par le monde. Et ça se retrouve dans l'édition française, l'abrégé. Si vous lisez l'abrégé, vous verrez, c'est en note dans l'édition française. C'est pas dans l'édition espagnole. Hein, je sais pas si c'est dans l'édition anglaise. Il faut regarder. Hein. Il reprend ce problème, il dit, mais Wundt, dans la fin de tour, il dit, mais les médecins et les philosophes, ils comprendront jamais la psychanalyse, parce qu'ils ont jamais analysé un rêve. Et quand on analyse un rêve, on voit bien que le psychisme inconscient existe. Alors du coup, tout le monde embraye le truc en disant « clinique, je vais vous prouver par la clinique ou par la pratique de l'interprétation des rêves que l'inconscient existe. » C'est des cons parce qu'il y a Popper qui se pointe et qui dit « vérificationniste, c'est pas scientifique votre truc. » Parce que, alors ils veulent être scientifiques. Oui, c'est pas scientifique puisque c'est la question de l'assertion, de l'autorité, c'est la question du phallus, c'est la question du sexe. Et donc, il n'y a aucune raison que ce soit scientifique, c'est préalable à la science. La science ne peut pas faire... Il n'y a pas de linguistique de l'énonciation. Pourquoi ? L'énonciation, c'est érotique. Parler, c'est érotique. C'est narcissique, sans doute. Mais ce n'est pas que ça, le narcissisme. Parler, écrire, lire, c'est narcissique. Ça veut dire qu'il faut réécrire le corps pour le faire fonctionner. C'est ça, le narcissisme. Et que la parole, et la puissance de la parole, l'autorité de la parole, joue un rôle... pour l'enfant de médiation dans cette articulation De quoi ? Eh bien, d'un corps avec son image dans le miroir. Et c'est pas pareil si le corps est plat ou si le corps est dimension 3. Donc les éléments en pointe, dira Lacan, va l'écrire. C'est le seul endroit où je l'ai vu, je ne l'ai pas lu dans le séminaire, il ne le dit pas, mais il l'écrit dans Subversion du sujet. Les éléments en pointe, entre guillemets, il met même des gros guillemets autour de en pointe, hein, c'est le canal par lequel la libido se transfère du corps propre à l'image narcissique. Les éléments en pointe. Et vous remarquez effectivement que les fétiches chez Freud, hein, c'est le nez dans son article sur le fétichisme, et c'est les pieds, dont parle Freud aussi dans son article, c'est le dernier, les derniers organes, un organe qu'on a vu avant de découvrir la castration de la mère. On restitue un phallus, le fétiche, c'est un phallus restitué à la mère. Mais ça se porte justement particulièrement sur les éléments en pointe dans le corps. Et ça, c'est un fait géométrique. C'est que les objets de dimension 3 subissent une inversion. On ne sait pas laquelle. Alors que les éléments, les objets plats, non, ne subissent pas d'inversion. Alors, ils n'ont pas d'image spéculaire. Les uns sont spécularisables, ils sont inversables. Les autres ne sont pas inversables ni inversés. Bon. C'est une façon de définir spéculaire et non spéculaire. Hein. Chercher dans le séminaire et dans les écrits de Lacan une définition de spéculaire, non spéculaire, moi, je ne l'ai pas trouvée. Mais je constate que les exemples qu'il donne avec la bande de Mobius, justement, hein, la bande de Mobius, elle est inversée dans le miroir. Le nœud trèfle n'est pas inversé dans le miroir. Faites attention. Ah si, si, donc, il y a deux nœuds trèfles. Le nœud trèfle est inversé dans le miroir, mais pas le nœud borromien, voilà. Bon. Donc le nœud trèfle est inversé dans le miroir. Il y a deux nœuds trèfles. Il y a un nœud trèfle droit et un nœud trèfle gauche. Bon. Pourquoi ? Parce que le nœud trèfle est de dimension 3 à cause des croisements. C'est à l'endroit seulement des croisements. Par contre, si vous prenez l'ombre du nœud trèfle, on va parler comme Freud avec la psychose, regardez, l'ombre de l'objet, si vous prenez l'ombre du nœud trèfle, alors lui, il est identique à son image dans le miroir. Bon. Donc voilà, involution signifiante, comment est-ce que Lacan nous propose d'étudier ça ? Alors je vous dis... Pour que vous arriviez à vous y retrouver, si vous ouvrez le séminaire qui s'appelle Le moment de conclure et le séminaire qui s'appelle la topologie et le temps, vous allez voir que, à part l'histoire des nœuds borroméens généralisés qu'on va voir après, qui est le deuxième problème, hein, ça vient assez vite, puisque là il y a un beau dessin que j'avais fait puis qui avait corrigé Madame Parizeau, ça fait hurler l'homme de farine, là. Mais Madame Parizeau, je lui ai montré, je leur ai montré, je faisais un cartel avec Bailly, Madame Parizeau, l'enfariné. Ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais dans le cabinet de Lacan. Alors ils ont l'habitude de regarder par le trou de la serrure, d'essayer de soudoyer un peu Gloria, qui faisait des confidences avec qui elle aimait bien. Et puis, il m'avait proposé de faire un cartel. J'étais d'accord. Je leur ai fait acheter un très bon livre, de logique. Théorie des ensembles, qui s'appelle Logique, Théorie des ensembles, Logique, Théorie des ensembles et Topologie générale, de Lukasiewicz. Donc c'était lui, c'était pas comme je c'était Kuratowski, de Kuratowski, en langue française, fait par les Polonais de Lowe, Varsovie, d'avant-guerre. Parce que Lacan, il a été formé par ça, il a été formé par la logique, Théorie des ensembles et Topologie, dans les années 20 et 30, c'était la domination de l'école de Varsovie. Et Lowe, la ville de Lowe et la ville de Varsovie. Et tous ces logiciens polonais ont fait des choses formidables. Donc puisqu'ils voulaient savoir qu'est-ce que c'était que cette topologie, c'est une manière de rentrer dans la matière. Bon, toujours est-il qu'on a fait un cartel, et quand le jour où j'ai trouvé dans l'après-midi ce dessin, hein, vous voyez, il y a 5 nœuds borroméens A4 qui sont connectés entre eux. Chaque endroit, là, c'est des borroméens A4. C'était pour fabriquer un borroméen au sens généralisé que Lacan avait dit. Tout à coup, ça vient dans une leçon, comme ça, au début d'une leçon, puis vous voyez, c'est mal foutu la présentation, parce qu'on croit que ça vient à la fin de la leçon précédente. Non, mais c'est là. Là, le borroméen généralisé, là, il y a un dénommé Vapro. Voilà. Et là, il y a le nœud borroméen généralisé. À partir de ce moment-là, je suis devenu quelqu'un de considérable pour tous ces gens. Et j'étais très emmerdé comme souris parce qu'on me demandait d'être un oracle, c'est-à-dire de dire des choses qui étaient des choses divines. et que nous, on était aussi emmerdés que les autres parce qu'on comprenait rien. Enfin, on ne comprenait pas grand-chose. Et si je vous parle comme je vous parle maintenant, c'est parce que j'ai continué à travailler après. Après même la mort de Lacan, en 80. Et là, à ce moment-là, on était quand même très embêtés. Mais à partir du moment où Lacan lui avait dit non, Souris, il en était dans un état terrible. Il en était à apporter même en plein été, voyez-vous, au mois de juillet, boulevard Saint-Germain, il mettait un passe-montagne pour se promener dans la Saint-Germain-des-Prés. Bon, moi j'ai dit, écoutez, mon Dieu, c'est un peu fort. Mais il souffrait vachement, hein, parce qu'il souffrait du fait que c'était pour lui une indignité totale qu'on lui demande de délivrer des oracles comme la Pythie de Delphes. Alors qu'il était un type qui s'attachait à essayer de faire de la topologie, de piger ce que Lacan voulait faire avec ça. Moi, je me suis très bien entendu avec Souris, c'est formidable. On s'entendait très bien, pourquoi? Parce que même mieux qu'avec ses copains, Thomé, bon, j'aime bien Thomé, mais c'est différent. Souris, c'était quelqu'un. Voilà,